que cette manière de comprendre l'islam va réapparaître. Dans un hadith authentique, il nous dit, à la fin des temps, va apparaître dans la communauté musulmane des gens jeunes, soufaha ul ahlam, qui ont peu de cervelle. Au niveau intellectuel, au niveau de leur compréhension de la religion, ils sont très très limités. Ils sont fermés d'esprit. Yaquluna min khayril bariyah, ils vont utiliser les paroles de la meilleure des créatures, c'est-à-dire ils parlent de lui. Ils vont utiliser mes paroles. Mais leur foi ne va pas descendre sous leur gorge. Autrement dit, tout ça c'est dans l'apparence. En fait, ils ne font que suivre leur passion. Ils n'ont pas étudié la religion. Ce sont souvent des gens qui n'ont que peu de connaissances religieuses. Donc ils sont facilement manipulables, en plus de leur petit quotient intellectuel, qui en fait des gens vulnérables, des proies faciles. Et nous sommes à cette époque, puisqu'au nom de l'islam, au nom de Dieu, des fanatiques se permettent de verser le sang des innocents. Non seulement des gens qui ne sont pas musulmans, c'est déjà très grave en soi, mais en plus ceux qui partagent leur religion. Qu'est-ce qu'ils leur reprochent? Tout simplement de n'être pas d'accord avec eux. En fait, ils ont la haine de l'autre, de celui qui est différent. Parce que celui qui est différent, qui ne pense pas comme moi, il est forcément contre moi. Et je trouve dans les textes ce qui peut justifier mon horreur. Voilà d'où vient le fanatisme religieux. Il ne vient pas des sources de l'islam. Nous n'avons aucun problème avec le Coran et les paroles du prophète. Mais nous avons un problème avec ces gens qui approchent le Coran et la Sunna avec peu de connaissances. Ils ont une vision segmentée de l'islam, une vision réductrice de l'islam. Ils prennent ce qu'ils veulent du prophète et de Dieu, ils font quelque chose à leur sauce, et ensuite, ça donne ce que l'on voit. Et il suffit de comparer leurs agissements et leurs personnes au prophète. Et la différence est très claire. Le prophète de la miséricorde, le prophète qui nous dit qu'une personne est en enfer parce qu'elle a empêché son chat de se nourrir, et d'aller chasser, elle est punie à cause de la maltraitance d'un animal, et on veut nous faire croire qu'on peut maltraiter un être humain, qu'on peut toucher à sa vie. Ce prophète qui n'a jamais agressé une personne, mais qui s'est toujours défendu, qui a supporté pendant 13 ans les insultes, les tentatives d'assassinat, qui est venu en aide aux opprimés, aux pauvres, qui a combattu les injustes, on veut nous faire croire que cette personne, ce modèle, peut cautionner l'assassinat d'innocents. C'est pas possible. Donc, le fanatisme ne vient pas de l'islam, ni des textes religieux, mais il vient de l'interprétation erronée de certaines personnes qui n'ont pas de science. Et ces personnes, suivent leur passion, ont parfois beaucoup d'orgueil parce qu'ils ne prennent pas le temps d'étudier leur religion. Ils ont un an de retour à l'islam, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et ils sont déjà des savants. Et ils se permettent d'émettre des avis religieux. C'est très grave. Ce fanatisme religieux, c'est quelque chose de passager. Pourquoi? Parce que, alors, en fait, il faut relativiser. C'est passager à une époque où on a accès à la science. À une époque où c'est l'ignorance qui fait rage. À une époque où ceux qui sont mis en avant, ce sont ceux qui ont le moins de science, on a un développement du fanatisme. Mais quand vous regardez dans l'histoire de l'islam, avant ce siècle, où s'est démocratisé en fait la science a été démocratisée, on a accès aux sources en allant sur Internet. Mais si on remonte un peu dans le temps, le siècle dernier et encore avant, on n'avait pas ce fanatisme religieux. On n'avait pas ça. Pourquoi ? Parce que ceux qui parlaient de religion, c'était des gens de connaissance, des savants authentiques. À notre époque, avec la démocratisation des livres, de la science, des gens se sont permis de parler et ils apparaissent et donc forcément ils égarent les gens. Forcément ils les égarent. Dans l'histoire de l'islam, nous n'avons jamais eu de problème avec les chrétiens, les juifs et les non-musulmans en terre d'islam. Il n'y a jamais eu de problème. Au contraire, les terres d'islam ont toujours été des terres d'accueil contre les juifs et les chrétiens persécutés en Occident. C'est l'histoire qui le dit. On le sait. Mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné ? Parce qu'il y a eu des mauvaises expériences. C'est que les gens au pouvoir, qui étaient des musulmans, étaient en fait des gens assoiffés de richesses et d'ambition politique. Et alors que les gens au pouvoir étaient toujours accompagnés de savants qui étaient là pour les remettre en place. Donc dans leur cour, il y a toujours eu des savants dans la cour des gouverneurs musulmans, des califes musulmans. Mais à un moment donné, ces savants ont été écartés. Et donc, ils avaient les mains libres. Et des savants ont été persécutés parce qu'ils s'opposaient à leur gouverneur. Parce qu'ils disaient au gouverneur, vous êtes contre l'islam. Mais ils ont été persécutés. Et c'est pour ça qu'il y a des mauvaises expériences. Ce n'est pas dû à l'islam. C'est dû aux gens qui sont assoiffés de pouvoir. Et pour le dire franchement et réellement, le fanatisme religieux n'est pas la première cause des génocides dans l'histoire. Regardez l'histoire des génocides. On va remonter à quelques dizaines d'années. Nous avons eu, alors on peut le qualifier de génocide ou pas, mais nous avons eu la persécution de certaines minorités religieuses dans le monde, qu'elles soient juives, chrétiennes ou musulmanes. On a eu la Première et la Seconde Guerre mondiale qui ont fait des millions de morts. Ce n'était pas au nom de Dieu, au nom de la religion. On a eu le nazisme, on a eu le communisme extrémiste, on a eu en Asie d'autres formes d'extrémisme. On remonte encore, on a eu la colonisation, la traite négrière, n'est-ce pas ? Donc ceux qui sont à l'origine des plus grands génocides et de la plus grande barbarie qu'ait connue l'histoire, ce ne sont pas des religieux. Ce sont des gens qui veulent le pouvoir et l'argent. Et c'est ça le véritable problème. Ce n'est pas la religion. Ce sont des gens qui sont mal intentionnés, tout simplement. Ce sont des êtres humains qui ont été capables du pire. Donc il faut arrêter de réduire la radicalisation de certains musulmans au simple fait qu'ils appartiennent à l'islam ou qu'ils se sont convertis à l'islam. C'est faux. Ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. C'est de la manipulation médiatique. Alors, est-ce que, aujourd'hui, ce sont ces quelques, parce qu'ils ne sont pas beaucoup, ces quelques Français qui ont des idées extrémistes qui posent problème à la France ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Nous avons d'autres grands problèmes en France. Nous avons la crise, le chômage, les retraites, l'école qui ne va pas bien, l'éducation des enfants, la drogue, la délinquance, la pollution, les maladies. On a énormément de problèmes. Et au quotidien, ce n'est pas le terroriste qui nous pose problème. Au quotidien, c'est autre chose. Mais malheureusement, nos médias sont malhonnêtes. Chaque jour, ils doivent rappeler aux Français que ce qui doit les inquiéter au quotidien, c'est la menace islamiste. Et ça marche. Et ça marche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, durant cette semaine de solidarité internationale, je pense qu'il faut être très solidaire des convertis à l'islam, parce qu'ils vivent une période très difficile. Aujourd'hui, choisir l'islam comme voie du bonheur, aux yeux de la famille du converti, c'est forcément entrer dans le terrorisme, être embrigadé, être manipulé, être dans une secte avec un gourou et éventuellement aller faire le jihad. Et c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pour ça que les convertis à l'islam, ceux qui ont fait ce pas librement et qui ont trouvé leur bonheur dans l'islam, ils doivent faire très attention à leur relation avec leur famille. Ils ne doivent faire aucun faux pas, parce que tout faux pas pourrait leur coûter cher. Et justifier ou apporter du crédit à ce qu'ils entendent à la télé. Vous savez comment ils doivent être ? Comme Ibrahim l'a été avec son père. Ibrahim alayhi salam, il avait un père, non pas qui était polythéiste, mais qui fabriquait des statues. Et pourtant, il a vécu dans la maison avec son père. Revenez au discours de Ibrahim avec son père, plein de gentillesse, d'amour, jusqu'à ce que son père lui dise « Tu sors de la maison ou sinon je te lapide, donc à coup de pierre je te sors de la maison. » Et vous savez ce qu'il a répondu ?« Salam, paix à toi. Moi je resterai toujours fidèle à mes principes de paix et de tolérance. » Il ne faut pas que les convertis à l'islam se mettent à dos leurs parents. Ils doivent, surtout en ces moments, faire preuve de sagesse et faire des concessions. Et ils sont dans un cas où ils peuvent faire des concessions. Quand on commence à entrer dans l'islam, nous ne sommes pas obligés de tout pratiquer. Naam. Allah Azza wa Jal, Dieu dans sa sagesse, il n'a pas demandé aux musulmans pendant 13 ans à la Mecque, parce qu'ils étaient dans un contexte hostile, de pratiquer les pratiques de l'islam. Il les a laissés pour ne pas les alourdir. Il a attendu qu'ils se retrouvent à Médine, où il y avait de la liberté, pour leur demander de pratiquer les interdits et les obligations. Tant qu'ils étaient à la Mecque, il leur a simplement demandé de quoi ? De faire du bien autour d'eux, de faire connaître aux gens quelle est leur religion et leur conviction pendant toutes ces années, pendant les 13 ans à la Mecque. Deuxièmement, nous avons des cas où des gens viennent se convertir auprès du prophète à l'islam et ils lui demandent de ne pas tout pratiquer. Au prophète, on ne veut pas verser la zakat, on ne veut pas faire ça. Et le prophète leur dit, allez-y. Et quand les compagnons lui ont dit, mais pourquoi prophète ? Ce sont des piliers. Il a dit, ne vous inquiétez pas, ils finiront par les mettre en pratique. Laissez-leur le temps. Laissez-leur le temps. Comme Dieu a laissé les temps aux compagnons le temps de trouver le contexte favorable pour pratiquer leur religion et la vivre en toute sérénité. Donc les convertis à l'islam doivent mettre l'accent sur leur relation avec leur famille, parce que le plus grand rêve d'une personne qui trouve son bonheur dans l'islam, c'est que ce bonheur touche toute sa famille. Mais si on entre en conflit avec eux, comment on va les ramener vers cette voie du bonheur ? C'est impossible. Peut-être qu'à un moment donné, ce n'est plus tenable, ce n'est plus gérable. C'est vrai, il y a des gens intolérants. Mais ça, c'est en dernier recours. Ça, c'est en dernier recours. Quand on doit se séparer et couper les ponts, c'est qu'on n'a pas le choix. Mais ou sinon, notre objectif, en tant que croyant, en tant que musulman, c'est de faire du bien à nos parents, à nos familles, pour, dans l'idéal, qu'ils nous comprennent et peut-être qu'ils nous rejoignent. Et enfin, alors pourquoi est-ce que je parle des convertis ? Parce que cette semaine, nous avons 3 conversions. Une semaine assez spéciale. Donc nous avons 3 conversions cette semaine, pas après la khutba, mais en tout cas, 3 personnes cette semaine ont demandé rendez-vous à la mosquée pour se convertir. Donc, regardez, les médias font leur travail, mais, ils n'arriveront pas à aveugler tous les citoyens. Ils n'arriveront pas à les aveugler. Tant que nous, les musulmans de longue date, on présente une bonne image au quotidien. Tant qu'on fait ça, ne vous inquiétez pas, on sera plus fort que les médias. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que la tentation de se replier, la tentation de ne pas discuter, de répondre à la violence par la violence, est parfois grande. Mais il faut savoir se contenir. Il faut savoir se contenir parce que notre prophète est notre modèle, et c'est comme ça qu'il était. Une personne nous a demandé de faire des invocations pour son papa, qui est dans un état très critique. Une autre personne a demandé qu'on fasse des invocations pour elle, parce qu'elle a un cancer généralisé. On fera des invocations pour eux et pour tous les malades. Demain, Inch'Allah, nous recevons Hani Ramadan pour la conférence du mois. Mais avant cela, il y a un séminaire ouvert après la prière de l'Asr, donc 14h45 jusqu'à à peu près l'heure du Maghrib. Donc un séminaire sur comment mettre en place ou élaborer un programme spirituel pour atteindre l'ihsan, l'excellence. Donc dans la salle, Inch'Allah, vous êtes les bienvenus. Et puis le soir, après la prière de l'Aïcha, vers 18h30, nous avons l'intervention « Comment connaître la paix intérieure ?» Vos participations, qu'elles soient physiques ou financières, sont les bienvenues pour que la soirée se passe bien. Et la semaine prochaine, nous recevons une mosquée qui va collecter l'argent ici. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك واتباع سنته اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نعوذ بك من الغلو في الدين ونسألك التفقه فيه اللهم من كان مريضا فاشفيه اللهم اشفيه شفاء عاجلا لا آجلا اللهم إنا نسألك أن تعطي الأجر لكل مريض ومبتلى اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم ارحم أموات المسلمين جميعا اللهم ألف بين قلوبنا ويسر لنا أمورنا واحفظ لنا أولادنا وأزواجنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة